très reposé, mais ça fait tellement du bien au moral de pouvoir se retrouver. Souvent, on n'a pas d'autres occasions que ça dans l'année, donc c'est vraiment encourageant. Ce matin, on va avoir simplement un court partage avec vous, et j'aimerais ça vous demander que vous puissiez nous édifier ce matin. Donc, comme c'est notre coutume, on va avoir ce matin le temps d'action de grâce pour l'année. Cette année, ça va être pour 2019. Habituellement, la coutume, c'est pas pour 2019, mais c'est pour les autres années. Là. Mais cette année, pour 2019, on va regarder ensemble pourquoi on pourrait se réjouir. Mais j'aimerais ça juste introduire ce matin avec le plus vieux livre de la Bible. Savez-vous quel est le plus vieux livre des Écritures? C'est pas la Genèse. Il semble que Job aurait été écrit probablement le premier de tous, avant même la Genèse, qui, elle, aura probablement été écrite par Moïse. Donc, ça fait déjà un bon bout de temps que l'humanité existait, mais Job serait probablement le plus ancien, le plus vieux livre de toutes les Écritures. Donc, j'aimerais ça ce matin qu'on commence en lisant le chapitre 1. On va regarder le chapitre 1 ensemble, donc une partie de la vie de Job, partie très significative, donc tout le reste du livre va dépendre de celle-là. Donc, on va lire Job chapitre 1 ensemble. Donc, Job, juste avant les psaumes, Esther, Job, psaume, proverbe. Donc, c'est pas comment il s'appelle Job? Steve Jobs, hein? C'est un autre Job, OK? Donc, il y avait, dans le pays d'Uth, un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. C'était un multimillionnaire pour l'époque. Cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils, puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, « Peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur? » C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu? » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudit en face. » L'Éternel dit à Satan, « Voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. » Et Satan se retira devant la face de l'Éternel. Un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui dit, « Les bœufs labouraient et les ânesses paissaient à côté d'eux. Les Sabiens se sont jetés dessus, les ont enlevés, ont passé les serviteurs au fil de l'épée et je me suis échappé, moi seul, pour t'en apporter la nouvelle. » Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, « Le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrasé les brebis et les serviteurs et les a consumés. Je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. » Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, « Les Chaldéens, formés en 3 bandes, se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Je me suis échappé moi seul pour t'apporter la nouvelle. » Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, « Tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici, un grand vent est descendu de l'autre côté du désert et a frappé contre les quatre coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. » Alors Job se leva, déchira son manteau, se rasa la tête, puis se jetant par terre, il se prosterna. Il dit, « Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. » En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Je prie avant d'entreprendre ce petit texte. Bien oui, Seigneur Dieu, merci de nous avoir laissé des passages comme celui de Job. Seigneur, aide-nous ce matin à être édifiés, à prendre cette leçon et pouvoir la mettre en pratique dans nos vies. Seigneur, utilise ma bouche pour parler à tes enfants et prépare nos cœurs à recevoir ce que toi-même tu as à nous dire. Et c'est en Jésus qu'on veut te prier. Amen. Donc, quel texte extraordinaire qu'on a ici. C'est un passage particulièrement intéressant puis très révélateur. En fait, aucun autre passage des Écritures ne nous révèle aussi clairement ce qui se passe dans le ciel. On est comme transporté au ciel, on voit ce qui se passe dans cette dimension qui nous échappe. Il va de soi que quand on vit des événements, que ce soit positif ou négatif, on n'est pas conscient de toute cette partie spirituelle qui est en train de se passer dans une autre dimension. Ça nous échappe. Et ici, c'est le cas pour Job. Job n'a aucune idée de ce qui est en train de se passer au ciel lorsqu'il subit toutes ces épreuves-là. Et donc, il ne peut pas s'accrocher à dire, « OK, c'est parce qu'il y a un accord entre Satan et Dieu. » Il ne sait pas ça. Il est comme nous. Il n'a aucune conscience de ce qui vient de se passer. Par contre, un passage comme celui-ci nous a été laissé pour qu'on soit conscient de cette dimension-là spirituelle de ce qui se passe. Qu'on soit conscient qu'on n'est pas au courant qu'est-ce qui est arrivé exactement, mais qu'il y a un domaine spirituel qui nous échappe à nous tous. Évidemment, un texte comme celui-là nous amène des millions de questions. Hein? Lorsque nous arrive une épreuve, hein, on pourrait dire, « Pourquoi, Seigneur? Pourquoi ça m'arrive à moi? » On pourrait dire, « Est-ce que c'est un châtiment? Est-ce que Dieu est en train de me punir pour quelque chose que j'ai fait? » On pourrait dire, « Est-ce que je suis un Job des temps modernes? Et puis c'est parce que je suis intègre, finalement, que ça m'arrive? » On pourrait se demander, « Est-ce que Dieu a perdu le contrôle? Est-ce que Dieu a perdu le contrôle dans ces événements-là qui se passent dans ma vie, qui se passent autour de moi? » Alors, on va tirer quelques leçons de ces versets-là. Premièrement, on peut, à travers un passage comme ça, tirer la conclusion que les tragédies n'arrivent pas forcément à cause de notre mauvaise conduite et que les bénédictions n'arrivent pas forcément à cause de notre conduite exemplaire ou de notre bonne conduite. Hein? Ici, bien, c'est toujours un piège, lorsqu'il arrive quelque chose à quelqu'un ou qu'il nous arrive quelque chose, d'interpréter, sans être au courant justement de toute cette dimension spirituelle-là. Et ici, on voit que les amis de Job, plus tard dans le texte, et même son épouse, interprétaient ces événements-là. Ils disaient, « Bien, Job, c'est parce que tu as péché contre Dieu. Tu as fait quelque chose de mal, c'est pour ça que tu as un châtiment qui t'arrive, que tu as tout perdu. Fait que repends-toi, Job, repends-toi. » Le texte qu'on vient de lire, Job n'a rien fait de mal. Ce n'est pas un châtiment. On voit même que Dieu vante un peu son serviteur auprès de Satan. As-tu remarqué mon serviteur Job, comment il est intègre, comment plus que tous les autres, il est droit? Donc, quand on juge hâtivement sur des événements qui nous arrivent ou qui arrivent à quelqu'un autour de nous, on n'est pas conscient de cette dimension-là spirituelle. Donc, une première leçon qu'on peut tirer, c'est de ne pas tirer des conclusions hâtives dans des situations positives ou négatives. Alors, je me demande comment Les adeptes de l'Évangile de la prospérité peuvent interpréter un texte comme celui-là. Bon, c'est sûr, Job était prospère, mais là, selon la croyance d'Évangile de la prospérité, un croyant ne peut pas être pauvre, puis un croyant ne peut pas être malade. Hein, si tu es un croyant, Dieu va te bénir, tu vas être riche, puis tu vas être en santé. Mais là, ici, Job a tout perdu. Hein? Donc, comment ils peuvent expliquer ça? Et comment ils peuvent expliquer qu'il est tombé malade après? Parce que la suite, Satan s'en est pris aussi à sa santé. Dieu lui avait permis. Donc, parce que selon la doctrine de l'Évangile de la prospérité, si tu es pauvre, si tu es malade, c'est soit à cause du péché, soit à cause d'un manque de foi. Et c'est clairement ni un ni l'autre ici. Dans notre situation, c'est ni un ni l'autre. Job n'a rien fait pour qu'il lui arrive ce qui lui arrivait. Donc, on est en présence d'un croyant intègre qui a tout perdu au même moment. Ça, c'est ce qui est frappant dans le texte. C'est comme... tous ces événements-là sont arrivés comme emboîtés un dans l'autre. Il n'a pas fini de parler que l'autre arrive. Il n'a pas fini de parler que l'autre arrive. Hop là, c'est vraiment... Il y a quelque chose de flagrant ici qui vient de se passer. Deuxièmement, c'est justement que cette réalité spirituelle-là nous échappe toujours. Qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui s'est passé. Et justement, comme on l'a dit, Dieu semble bien fier de son enfant, de son serviteur ici. Et il l'a fait remarquer à Satan. Satan vient d'arriver de sa petite promenade sur la terre. Hein, j'arrive de me promener sur la terre. Et Dieu lui dit, est-ce que tu as remarqué mon serviteur Job? Évidemment, Satan l'avait remarqué. Parce que quand Dieu a mentionné Job, il savait très bien de qui il parlait. Il savait très bien comment Job était prospère et tout ça. Et là, il amène un questionnement devant Dieu. Est-ce que Job t'aime parce que tu le bénis? Ou est-ce que tu le bénis parce qu'il t'aime? Et Satan, lui, ce qu'il dit, c'est « Moi, je pense que Job, il t'aime parce que tu le bénis. Arrête de le bénir, puis tu vas voir. Tu vas voir sur quoi est basé l'amour de Job envers toi. » C'est un petit peu le questionnement que Satan apporte devant Dieu. Mais Dieu connaissait son serviteur. Dieu connaissait son serviteur Job et il a permis l'épreuve qui lui arrive. Il y a plusieurs points ici à faire remarquer. C'est que Dieu est toujours au contrôle. Lorsqu'il nous arrive des choses positives ou négatives, Dieu est toujours entièrement au contrôle. Et c'est ce qu'on voit ici. Satan ne peut pas faire tout ce qu'il veut, à moins que Dieu ne le lui permette. Et c'est exactement ce qui est arrivé ici. Dieu ne permettait pas à Satan de toucher au bien et à la famille de Job, mais à un moment donné, Dieu a permis. Dieu a laissé une porte ouverte pour que Satan agisse. Donc, ce qui est rassurant, c'est que Dieu est toujours au contrôle. Deuxièmement, c'est que Dieu établit des limites. Le verset 12 dit, « Voici tout ce que lui appartient, je te le livre, seulement ne porte pas la main sur lui. » Donc, Dieu place même des limites à Satan. Dieu sait ce qui va être bon pour nous, ce qu'on va être capable de supporter, et il peut mettre des limites. Dire ça, tu ne touches pas à ça. Okay? Troisièmement, c'est Satan et non Dieu qui fait le mal ici à Job. Hein, pourtant, le serviteur, au verset 16, parle, il dit « Le feu de Dieu est tombé du ciel et a embrasé les brebis. » Comme si c'était Dieu qui avait... Mais non, on voit très clairement dans le texte, c'est Satan qui a fait ce mal-là à Job. Mais les hommes vont croire que c'est Dieu, vont voir Dieu là-dedans. Donc, la réalité spirituelle nous échappe. Et troisièmement, ma réaction m'appartient. J'en suis entièrement responsable et j'en suis entièrement imputable aussi. On pourrait manifester notre déception, lever le poing en l'air, dire « Seigneur, pourquoi tu as fait ça à Job? C'est pas juste! C'est pas juste! Job n'a pas mérité ce qui lui est arrivé. » C'est tellement horrible. Ses 7 fils, ses 3 filles, qui sont morts en même temps. Imaginez-vous la tragédie. Puis Job n'a rien fait pour mériter ça. C'est inacceptable qu'un innocent ait à subir quelque chose comme ça. Mais Job met directement le doigt sur le bobo. Dans son raisonnement, toutes les bénédictions qu'il a, dont ses 7 fils et ses 3 filles, lui venaient de Dieu. C'est Dieu lui-même qui les lui avait données. Toutes ses richesses lui venaient de Dieu. C'est Dieu lui-même qui les lui avait données. Donc Dieu avait tous les droits, toute la légitimité pour le lui donner, mais aussi pour le lui enlever, parce qu'il reconnaissait que ça venait de Dieu. Donc quand Dieu le jugeait opportun, il pouvait lui enlever ce qu'il avait lui-même donné. Mais on pourrait se demander, est-ce que Job est en train de remercier Dieu d'avoir perdu ses enfants? Mais certainement pas. Il n'est pas en train de dire, merci Seigneur de me les avoir enlevés. Il est en train de reconnaître la souveraineté de Dieu, par contre. Et que même à travers ces épreuves-là, on a des raisons de remercier ou de bénir l'Éternel. Exemple, si on a eu nos fils pendant 30, pendant 40 ans, on peut remercier Dieu pour ces 30, 40 années-là qu'on a été bénis de les avoir. Même si on ne remercie pas de les avoir perdus, on peut remercier pour les choses positives que Dieu nous a amenées à travers ça, ou pour son soutien peut-être dans cette épreuve-là. Merci Seigneur, parce que même à travers une épreuve de même, tu ne me laisses pas tomber. Tu me soutiens toujours. Tu m'aides à passer à travers. Donc, il y a des raisons de bénir, même si on ne remercie pas pour une tragédie comme celle-là. Certainement, Job a réagi difficilement. C'est ce qu'on voit au verset 20. Hein? Et Job se leva, déchira son manteau, se rasa la tête, puis se jeta en terre et se prosterna. C'était difficile. C'était horrible pour Job, ce qu'il a vécu. C'était une épreuve énorme pour lui. Donc, c'est pas en train de dire que ça a été facile, qu'il n'a pas pleuré, hein, qu'il n'a pas été triste de perdre ses enfants. Mais en tout cela, il n'a pas péché, le texte nous dit. Il n'a pas levé le poing et dire à Dieu pourquoi. Pourtant, Job ignorait totalement pourquoi ces événements-là lui arrivaient. Tout ce qu'il dit, c'est que le nom de l'Éternel était digne d'être béni, même malgré ces épreuves-là. Même s'il ne comprenait pas. Même si ses amis et sa femme le jugeaient. Même si à travers ça, lui passait pour le méchant dans cette histoire-là, lui qui était juste victime. Okay? Mais aux yeux de ses amis, aux yeux même de sa femme, il était le coupable. Il était responsable de ça. Donc, même à travers de cette injustice-là, Job n'est pas en train de se révolter contre Dieu, mais il dit que Dieu est toujours digne d'être béni. En fait, que ce soit des choses positives, des choses belles qui nous arrivent, ou même des épreuves difficiles, Dieu mérite toujours d'être loué, d'être adoré. Donc, Job ne pouvait pas aller jusqu'à remercier Dieu pour que Dieu lui ait enlevé ses enfants, mais il pouvait certainement reconnaître que Dieu avait toute la légitimité, tous les droits pour lui enlever ce qu'il lui avait lui-même donné et qu'il était toujours digne de louange. Il pouvait aussi bien bénir Dieu pour les épreuves que pour les bénédictions, parce que Dieu était toujours au contrôle. Puis il savait que lui-même était entre les sûres mains de Dieu. Voyez-vous que même si Job avait su qu'est-ce qui se passait dans le domaine spirituel, il n'aurait pas agi différemment. La façon que Job réagit, c'est la même façon qu'il aurait réagi s'il avait entendu Satan et Dieu discuter ensemble. Il y a une conduite irréprochable ici. Et le Seigneur, ça t'appartient, puis je te fais confiance. C'est un peu ça, l'attitude de Job. Mais on pourrait se demander, est-ce que ça, c'est quelque chose qui nous vient instantanément? Et je pense que le début de notre chapitre nous explique pourquoi Job a réagi comme ça. pourquoi est-ce que Job a été capable de réagir bien dans une épreuve aussi grande que celle-là? C'est dit, cet homme était intègre et droit, il craignait Dieu et se détournait du mal. Donc, pour être capable de bien réagir dans des moments pénibles, des moments difficiles, c'est que ta vie était déjà conforme. Il y avait déjà cette relation, cette crainte de Dieu qui était en place. Donc, lorsque Job recevait des bénédictions du Seigneur, qu'il y avait un enfant qui naissait, ou toutes les bénédictions qu'il avait reçues, il pouvait remercier Dieu. Déjà reconnaître, Seigneur, c'est toi qui me l'as donné. C'est toi qui m'as prêté cet enfant-là. Puis je suis reconnaissant pour chaque journée que je passe avec lui. Donc déjà, il y avait cette attitude-là. Puis c'est pas lorsque l'épreuve est arrivée qu'il s'est tourné vers Dieu. Puis, ah là, j'ai besoin de me tourner vers Dieu. Il était déjà tourné vers Dieu. Il reconnaissait déjà le doigt de l'Éternel dans sa vie. Alors quand est venue l'épreuve, ce qu'il a dit, c'est l'Éternel a donné, l'Éternel a enlevé. Donc, il reconnaissait que Dieu avait donné, lui avait donné ces enfants-là pendant le... puis c'était des adultes, ce qu'on peut comprendre. Donc, Dieu lui avait donné ces enfants-là ou confié ces enfants-là pendant quelques années et il reconnaissait que c'était le doigt de Dieu. Donc, Dieu a donné, on remercie le Seigneur lorsqu'il donne. Et si on fait déjà ça, lorsqu'il va enlever, on pourra reconnaître que Dieu a le droit aussi d'enlever. Puis il mérite encore d'être loué, d'être béni à travers ça. Et c'est ce que j'aimerais qu'on fasse présentement dans les prochaines minutes. J'aimerais qu'on récapitule un petit peu ce qui s'est passé dans l'Église, mais dans nos vies personnelles aussi. Au cours de l'année 2019, il y a une multitude de bénédictions qu'on a eues en Église et personnellement. J'aimerais ça qu'on se les rappelle, ces bénédictions-là, et que quelques centaines ici, des petites billes de verre. Donc, de mentionner une bénédiction, et si c'est une bénédiction qui concerne, par exemple, une famille de quatre, on peut mettre quatre billes dans le pot pour se rappeler comment Dieu a été bon pour nous en 2019. Donc, maintenant, j'aimerais ça vous inviter à vous avancer, venir nous partager une bénédiction, puis venir mettre une ou plusieurs billes dans le pot. Donc, qu'est-ce qui s'est passé tout au cours? Il y en a eu beaucoup de choses en 2019, là. Donc, y a-t-il des choses que vous voudriez partager avec nous, qu'on se rappelle ensemble? Peut-être des choses personnelles aussi. Cette année, j'ai vécu ça, puis on peut le mettre, ou en famille. Des fois, ça peut être des naissances, ça peut être... Il y a plein de raisons de louer le Seigneur, de bénir le Seigneur, mais même les épreuves. Même les épreuves, on peut voir les bénédictions de Dieu, que Dieu nous a gardées à travers cette épreuve-là, puis remercier le Seigneur. Donc, je vous invite à vous avancer, puis venir mettre des petites billes pour rappeler comment le Seigneur a été bon en 2019. Qui veut casser la glace?